Je vais vous demander, si je vous montre ça, vous pensez à quoi?
Une lampe, d'accord. Vous avez un... Est-ce que vous avez un verset en tête à propos de ça? Oui, ta parole est une lampe à mes pieds. D'accord. Et l'autre, tout à côté, c'est quoi? Un projecteur, une lumière. Merci. Ta parole est une lampe à mes pieds, n'est-ce pas? Psaume 119. Et une lumière sur mon sentier. D'accord. Maintenant, si je vous montre l'image suivante, vous pensez à quoi? Du lait, d'accord. Vous avez un verset en relation avec la parole de Dieu? Avec ça? Un Pierre, très bien. Ouais. Ok.
Comme il faut qu'on a.
Super. Alors, tu n'as pas compris? Voilà, l'idée, c'est là, c'est un biberon, donc ça fait penser à du lait. Et la parole de Dieu se compare elle-même à un lait spirituel et pur. N'est-ce pas? Voilà, alors. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le Seigneur. La parole de Dieu, je veux dire, nous fait croître, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai été trop vite. Ouais, voilà celui-là. C'est quoi? Des côtelettes. Ok. La parole de Dieu parle pas de côtelettes, mais elle parle. Oui, de nourriture. Mais oui, de nourriture solide. Voilà. Nourriture solide, qui est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc on voit que la parole de Dieu répond aux besoins du tout jeune, avec du lait, et puis de celui qui est plus mature, au travers d'une nourriture solide. N'est-ce pas? Alors maintenant, celui-là, miel, c'est facile ça. Un verset, relation avec la parole de Dieu?
Oui.
Qui peut le dire? Que tes paroles.
Ta parole est aussi douce que le miel.
Ah ouais, voilà. Hein? Bon, c'est presque ça, très bien. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Hein? Ça lui dira dans le psaume 119. Ok? Et puis, la parole de Dieu se compare aussi, ça je pense que c'est facile, c'est quoi? La pluie, d'accord. Un verset en relation avec la pluie, l'eau, la rosée. Ok? Tout ça? Pardon? Très bien, merci. Il y a ce verset-là, c'est « Ma parole ne revient pas à moi sans effet ». Ok, il y a plusieurs versets en relation avec ça, on ne va pas tous les donner parce qu'on n'a pas trop le temps. Vous pourrez les chercher, j'ai choisi celui-là, j'en ai choisi en fait deux. Deutéronome 32:2, « Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée ». Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Deutéronome 32:2. Et puis les questions de la purifier comme l'eau, par l'eau de la parole, dans Éphésiens 5:26. D'accord? On va prendre tous les versets, mais la parole de Dieu est comparée à de l'eau, à de la pluie, à des ondées rafraîchissantes, etc. Allons un petit peu plus loin. Celui-là, hyper facile. D'accord. Je vois que vous le connaissez plus. Merci. Ouais. Parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, etc. Je ne cite pas tout le verset. Et puis aussi, dans Éphésiens 6:17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. D'accord? Alors, la parole de Dieu est aussi comparée à un feu. Vous avez un verset là-dessus? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Ok? Vous avez ça. Vous le trouvez dans Jérémie 23:29. D'accord? Et puis, vous avez aussi, pas simplement un feu, mais c'est en relation avec un...
La parole pour le marteau qui brise le roc.
Très bien. Merci. Et c'est dans le même verset, en plus. Hein? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Okay. Alors, encore un, je pense qu'il est facile, celui-là. Ah, c'est pas tout à fait en relation avec la parole, qui est plus spécifiquement en relation avec la parole. D'abord, c'est quoi? Un trésor, où ça, dedans on peut mettre de l'or, de l'or fin, de tout ce que vous voulez, quoi. Quelque chose de précieux. Un verset en relation avec ça? Ok. Alors, je vous en donne quelques-uns. 3. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Psaume 117. J'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Et verset 127, et toujours dans les mêmes psaumes, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Grand butin, quelque chose de super précieux. N'est-ce pas? Ok. Et puis, on va terminer, même si on n'est pas exhaustif, je pense qu'on pourrait trouver d'autres images en relation avec la parole de Dieu, mais celui-là, est intéressant. C'est quoi ça? Semence. Très bien. Où est-ce que la parole de Dieu est comparée avec de la semence? La parabole du semeur. Très bien. Hein? Celui qui sème, c'est le semeur, et la parole, c'est la semence, c'est la parole de Dieu. Et puis vous en avez encore un autre, un verset. Nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. D'accord? Donc, ce n'est pas pour rien si l'Écriture se compare à tout cela. La parole de Dieu, elle est complète pour répondre à tous les besoins moraux et spirituels de l'homme. On a vu besoin de vie, besoin de lumière, besoin de purification intérieure, etc. Mais, cette parole de Dieu inspirée n'est pas exhaustive. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que je veux dire par « elle n'est pas exhaustive » Elle ne dit pas tout sur tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez me citer un ou deux exemples, brièvement, qu'elle ne dit pas tout sur tout? Par exemple, très bien, encore une autre réponse. Alors, la parole de Dieu, elle est complète, elle répond à tous les besoins de l'homme. Ah oui, ce qu'il a dit? En fait, j'ai pas compris non plus, mais j'ai dit, je pense que c'était bien ce qu'il a dit. C'est pour ça que j'ai dit très bien. Donc, est-ce que vous avez un ou deux exemples pour révéler qu'elle n'est pas exhaustive, qu'elle ne dit pas tout sur tout? D'accord, sont à nous et nos enfants. D'accord, ok. Mais alors, qu'est-ce qui n'est pas révélé?
La date et l'heure du retour du Seigneur.
Par exemple, on est d'accord. Mais on n'est pas appelé à le savoir. Hein, il n'y a que le Père qui le sait. Je pense, par exemple, dans notre vie... Vas-y, qui c'est qui a parlé? Excuse-moi.
Je disais, même le Fils ne le sait pas.
Même le Fils ne le sait pas.
Ça va appartenir à mon Père.
Absolument. Merci. Je pensais dans le domaine pratique. Est-ce que l'Écriture, vous rencontrez des jeunes, vous êtes en relation avec des jeunes? Ah, mais l'Écriture ne me dit pas qu'il ne faut pas fumer. Ah, c'est vrai. L'Écriture ne dit pas qu'il ne faut pas fumer. Mais il y a quand même des versets qui peuvent orienter des réponses pour savoir si c'est bien, si c'est profitable, si c'est utile, que je fume ou pas, par exemple. Mais voyez, spécifiquement, non, il n'y a pas des réponses sur tout dans l'Écriture. D'accord? Vous suivez là où je veux en venir? Donc, c'est la raison pour laquelle il faut la lire, cette Écriture. Il faut l'étudier, et il faut prier avec l'Écriture, parce que Dieu nous a donné une intelligence. Et Dieu veut que nous nous en servions pour le connaître et comprendre sa pensée, et pour raisonner à l'unisson avec lui. Vous me suivez? Sinon, il n'y aurait pas besoin. Sinon, ce serait simplement un code de loi, tel problème, ok, armoire numéro 7, plan B, Z, vous tirez le tiroir, prenez la fiche, c'est ça qu'il faut faire. On n'a pas été créé comme ça. On a été créé pour être en relation avec Dieu, pour le comprendre et pour l'aimer. Donc cette Écriture, il nous faut l'approprier. Et pour qu'elle puisse nous impacter, il faut vraiment... pas simplement la lire, l'étudier, mais prier aussi avec cette Écriture. Alors, voilà le plan. Et je vous dis, ce soir, on ne va pas tout faire. On va juste peut-être faire quelques éléments et ça va dépendre quelle est l'interactivité qu'il y aura entre nous et la manière dont vous allez participer. Ok? Mais je vous dis globalement les sujets sur lesquels on pourrait... que l'on va toucher, soit effleurer, soit aller un petit peu plus approfondément. Alors, lire et étudier l'Écriture, on va voir d'abord comment. Ensuite, ce serait bien de parler de comment faire pour éviter la routine quand on lit les Écritures, parce que c'est un danger pour tout chrétien. Et puis, par quoi commence-t-on pour quand on veut étudier les Écritures? Et ensuite, prier avec l'Écriture, son importance, comment fait-on? Et je proposerai plusieurs pistes de réflexion des thématiques préparées, utiliser les attributs de Dieu, pas au travers de versets mémorisés, et utiliser aussi un recueil de prières ou de chants, et de chants. Et on peut allonger la liste. D'accord ? Vous me suivez ? Vous me suivez, les amis ?
Oui.
Ouais ? Ok, merci. Alors, on va commencer par comment ? Comment ? Et n'hésitez pas à m'interrompre. Je ne voudrais pas faire le petit laïus. Je ne suis pas en mode prédication textuelle. Donc, allez-y, que j'ai aussi du retour. Lire et étudier avec l'écriture. Quand Colin a lancé le sujet, au début, j'ai dit, mais c'est un pléonasme. Lire et écriture, ben, bien sûr, si lire et étudier, c'est forcément avec l'écriture. Oui, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Effectivement, lire et étudier, et là, je les mets ensemble, je n'ai pas scindé lire et étudier, on va les mettre ensemble. Avec l'écriture, ça appelle au moins à trois choses. Et la première chose, c'est d'abord un truc tout simple, avec le texte seul. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai mis du temps à accepter ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'outils qui sont disponibles aujourd'hui avec l'écriture que c'est très facile d'aller piocher un commentaire, un ceci, un cela, ou écouter un message, etc. Premier risque. Deuxième risque, j'ai une Bible. Colin un jour m'a dit, mais il y a deux Bibles dans une. Parce que j'ai tellement de notes, de mes notes que j'ai mises, que finalement, si je lis cette Bible-là, je ne peux pas faire autrement que d'aller lire la petite note que j'ai mise là. Mais ça, ce n'est pas l'écriture seule, c'est l'écriture avec mes notes. Vous me suivez ? Donc, il faut s'astreindre. Il faut s'astreindre, les amis, à lire l'écriture et que le texte sans mes notes ou sans d'autres notes et sans faire appel à quoi que ce soit d'autre. Et c'est une discipline qui n'est pas facile, mais si vous le faites, mes amis, et si nous le faisons, nous donnons les moyens au Saint-Esprit de nous parler uniquement avec le texte. Sinon, le reste, ça peut être très bien, on est d'accord, mais ça devient des parasites par rapport à ce que le Saint-Esprit veut me dire. Prenons un exemple. Je prends un commentaire, je lis un texte, je ne comprends pas bien, tac, ça y est. Je vais prendre le commentaire de Spurgeon sur le machin, ou je vais taper sur mon logiciel de Logos, voir tout de suite ce qu'on dit. Ok, c'est très bien, mais finalement, ce n'est pas ce que le Seigneur voulait me dire avec le texte-là. Je court-circuite quelque part un peu l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous me suivez dans ce que je suis en train de dire là ? Donc, c'est très simple, mais nous voulons que le Seigneur nous parle, il faut nous astreindre à la lecture de la parole de Dieu seule. Parce que, quand je le fais, je prouve au Seigneur que je crois dans cette parole qui est inspirée. Et si elle est inspirée, elle est autosuffisante. Il n'y a pas besoin d'autre chose pour l'expliquer, dans un premier temps. On est d'accord qu'on parle de lire l'Écriture. Vous suivez ? Ok. Deuxième chose, lire et étudier avec l'écriture fait appel à comparaison des expressions bibliques avec les mêmes expressions utilisées ailleurs. Et ça, c'est important. Oui, je t'en prie. Vas-y.
Je vais t'interrompre.
Vas-y, tu as le droit.
Le texte seul.
Oui.
Je comprends bien mieux une Bible en français courant qu'une seconde.
Oui.
Et je ne comprends pas la même chose. Après, tu m'expliques la seconde et finalement je vais comprendre.
Oui.
Alors, le texte seul, mais avec quelle traduction ou quel modèle ou quelle version ?
D'accord. C'est une bonne question. Alors, personnellement, voilà ce que je pense, mais ça n'engage que moi. C'est-à-dire que je ne l'imposerai pas. Je pense que, pour moi, la lecture et l'étude, parce que finalement, les deux, on va voir que les deux vont ensemble, doivent s'effectuer avec un texte assez littéral. C'est-à-dire un texte qui n'interprète pas déjà le texte. Et le problème du français courant, c'est que déjà on fait un saut dans l'interprétation du texte, au travers de la traduction. On a ça, par exemple, de manière très prononcée, avec, non pas une Bible en français courant, mais avec une paraphrase. La paraphrase d'Alfred Kuhn, Parole vivante, elle est très bien, elle est très bonne, mais c'est déjà une interprétation du texte. Mais il est préférable, à mon avis, de méditer sur un texte qui se rapproche plus de l'original, quitte à ce qu'il soit un petit peu plus hermétique et qu'on ne comprenne pas tout à fait et qu'on ait besoin de réfléchir. Et donc de demander aussi au Seigneur, et on va en parler après, Seigneur, ça veut dire quoi ? Comment est-ce que je comprends et comment est-ce que je peux comprendre ça ? dans un premier temps, mais ça ne veut pas dire après, et là je te rejoins, d'aller regarder dans d'autres traductions, et d'ailleurs je le recommande, j'ai une dizaine de traductions françaises, et je le fais. Mais dans un premier temps, ça ne sera que le texte. Et c'est intéressant au travers des autres traductions d'ailleurs, que tout le monde a pas tous les traducteurs n'ont pas forcément compris la même chose. Des moments, il y a des variantes. Mais ça fait partie de ce qui existe, et on doit faire avec. Est-ce que ça répond à ta question ? D'autres questions ? Ou est-ce qu'on accroche plus loin ? Ok ? Alors, je reviens là-dessus. Comparaison des expressions bibliques avec les mêmes expressions utilisées ailleurs. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai parlé dans Jean 2. Femme, cette expression. Alors, vous replacez femme aujourd'hui, je veux dire, vous heurtez la personne. Mais à l'époque, ce n'était pas un terme qui heurtait du tout. Au contraire, c'était un terme même de délicatesse à l'égard de la femme. D'accord ? Donc, il faut, comparer les expressions identiques là où on les trouve ailleurs. Et ça, c'est quelque part respecter l'autorité des Écritures. Vous suivez ? En faisant cela. Et puis, je pensais aussi... le « qu'y a-t-il entre moi et toi » que je vais utiliser aussi tout à l'heure, c'est pareil. Cette expression, qu'est-ce que ça veut dire ? On la retrouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et on voit que c'est une expression qui est quand même assez rude. N'est-ce pas ? Et puis, lire, étudier avec l'Écriture, donc c'est aussi l'Écriture à ses propres définitions de mots. J'aime ça. Pourquoi ? Vous prenez certains mots... Dans le langage usuel, ils veulent dire, ils définissent un certain concept. Par exemple, prenons le cas de l'iniquité. L'iniquité, si vous regardez dans le dictionnaire, je l'ai trouvé. Alors, l'iniquité, ça veut dire le manque d'équité, c'est l'injustice extrême ou grave. Voilà, ça c'est l'iniquité. D'accord ? Maintenant, si vous lisez votre Bible et que vous commencez à bien connaître votre Bible... Iniquité, vous avez des versets qui se rapportent à l'iniquité et qui vous donnent une définition de ce que c'est que l'iniquité aux yeux de Dieu, et non pas selon le petit Larousse. Par exemple, je lis dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, quoi ? L'iniquité de nous tous. » Et là, on comprend comment l'Écriture rapproche l'iniquité avec quelque chose de beaucoup plus vaste que quelque chose de faire mal, un truc infâme, etc. Non, l'iniquité, c'est simplement quoi, selon Dieu ? C'est suivre sa propre voie. C'est ça, l'iniquité. Vous me suivez ? Donc, c'est important de donner une définition des mots avec le dictionnaire que représente l'Écriture elle-même. Ça ne veut pas dire que le... Petit Larousse n'est pas utile. Un mot en français, on peut ne pas le comprendre et aller chercher dans le Petit Larousse. Mais le mot même, la profondeur du mot que Dieu lui donne, il faut aller le chercher dans le texte lui-même. S'il existe, évidemment. Ce n'est pas le cas dans tous les mots. Est-ce que vous me suivez, les amis ? Oui ?
J'ai une question pour le deuxième point. Quand tu dis comparer les expressions bibliques avec les expressions aujourd'hui, il y a des outils pour comprendre, je veux dire, le contexte culturel et tout.
Non, pas avec les expressions aujourd'hui. Comparer les expressions bibliques avec les mêmes expressions utilisées ailleurs dans la Bible. Je ne me suis peut-être pas exprimé. Tu vois, mais pas avec aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que les expressions trouvées à un endroit dans la Bible, est-ce que je retrouve les mêmes expressions ailleurs dans la Bible ?
Alors, ma question, c'était aussi, par exemple, quand tu donnais les exemples de femmes qui habitent entre toi et moi,
oui.
Est-ce qu'il y a des outils, je veux dire, pour comprendre le sens que Jésus met dans ces mots-là ?
L'outil, il est là ? L'outil, il est là ?
L'outil de vie ?
C'est, quand tu lis le passage, tu vois, si tu lis tout l'évangile de Jean, tu vois que le Seigneur utilise le mot « femme », ça peut heurter, mais après, quand tu arrives dans Jean 20, et que tu vois que le Seigneur utilise le même mot, mais que ça donne, avec le sens vraiment faible et même de gentillesse, on comprend mieux, et que c'est répété quand l'ange le dit à Marie de Magdala, là, on comprend que ce terme n'est pas dur. Alors après, on peut confirmer ça au travers, effectivement, quand on va chercher dans le Vines, par exemple, ou dans d'autres outils, que le mot « femme » en grec n'est pas un mot qui est dur à l'égard du sexe féminin. On le confirme après, mais on l'a déjà dans la Bible. Tu me suis ? Est-ce que ça répond à ta question ?
Simplement, au rythme où je lis, entre Jean 1 et Jean 20, il se passe quelquefois quelque chose de rapprocher les versets.
Alors, le secret que j'ai découvert, c'est que je dois être saturé des Écritures et vraiment la connaître et la lire suffisamment pour que même quand je commence Jean 1, je sais ce qu'il y a dans Jean 20. Parce que je l'ai lu 30 fois, parce que voilà quoi. Et je crois qu'il nous faut être saturé des Écritures. Personnellement, je pense que c'est une nécessité pour le chrétien. La connaître le plus possible. Et je pense que ça demande du temps, c'est vrai.
Oui, c'est vrai qu'il faut, comme un petit c'est une toile, à travers les Écritures.
Oui, tout à fait.
Avec toujours cette question en tête, à quoi je pourrais relier cette expression ailleurs.
Oui, et on va en parler après au travers de l'étude de l'Écriture, même si je prends un peu d'avance sur ce que je voulais dire. Pour moi, une des règles ou quelque chose qui m'aide vraiment et qui aide à comprendre, à étudier l'Écriture, c'est sans arrêt soulever des questions. Soulever des questions. Où est-ce que ce mot, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà vu ailleurs? Où est-ce que cette expression, je l'ai déjà rencontrée dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament? Et c'est la raison pour laquelle je me rattache à une tradition littérale qui respecte l'expression même. Même si en français, ça peut un peu paraître bizarre, mais l'expression, elle est quand même littérale et on la retrouve là, on la retrouve là, on la retrouve là, on la retrouve là. Une Bible en français courant, en traduction dynamique comme la Summer, masque cela. Masque cela. Je ne dis pas que c'est une mauvaise traduction, mais ça masque ce travail-là que l'on peut faire. C'est pour ça que je ne le recommande pas, je ne l'utilise pas, mais la Bible Summer, surtout la Bible d'étude, je l'aime beaucoup pour les notes. Elle est excellente. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, ok, Colin, c'est très juste ta remarque. Il faut nous faire notre propre toile au travers des références croisées d'expressions et de mots. Oui. Lionel, Jean-Lionel, excuse-moi.
Est-ce que ce que tu dis là, d'aller chercher dans la parole déjà la définition, le sens que les auteurs bibliques ont voulu donner, est-ce que aussi le fait d'aller chercher la signification dans l'hébreu ou dans le grec, en fonction de ces anciens ou du Nouveau Testament, est-ce que ça ne court-circuite pas ce travail-là par rapport à cette réflexion?
Non, ça ne court-circuite pas, mais pour moi, ça le confirme. Pour moi, c'est une confirmation. C'est-à-dire que quand je pense que ce mot-là, par exemple, on a parlé de femme, qui a ce sens faible et qui n'est pas un mot dur, j'ai l'impression vraiment que c'est clair, que je le vois dans les Écritures, je vais aller confirmer en prenant un lexique et pour vérifier ce que disent les théologiens là-dessus, en tout cas ceux qui ont fait le lexique. Donc l'étude après, dans l'hébreu ou dans le grec, confirme ce que je pense avoir vu dans les Écritures. Ok ? Alors, on va aller un peu plus loin. On va s'arrêter d'ici un quart d'heure. Bon, c'est pas grave, les amis. Alors, qu'est-ce que j'avais ? Oui, je voulais un petit peu vous donner quelques sujets pour éviter la routine. Un des grands dangers pour les chrétiens, pour le chrétien, pour nous, c'est de vouloir s'astreindre à lire la Bible, et c'est bien, mais de tomber dans une certaine routine. Je fais toujours la même chose. D'accord ? Et après, le risque, c'est que soit on se lasse, ou alors, pour les plus jeunes, ils arrêtent, ils lisent plus leur Bible. C'est dommage. Et il faut éviter ça. Alors, comment éviter cette routine? Je vous livre un petit peu quelques expériences personnelles. Lire à vitesse variable. Il y a des moments, je me sens d'attaque pour vraiment plonger dans les Écritures. Je vais lire un verset, deux versets, et j'ai envie de creuser, j'ai envie de comprendre, alors je vais passer du temps à la méditation, d'accord ? Mais d'autres moments, quand je lis les Écritures, j'ai envie de la lire ce que j'appellerais au kilomètre. Je vais avaler des chapitres, je vais lire 10 chapitres à la fois. 10 chapitres simplement pour avoir l'atmosphère, pour avoir un petit peu la senteur, dans quel contexte on se retrouve. Donc je ne me fixe pas une règle, mais je suis un petit peu à l'écoute de ce qu'il y a dans mon cœur. Vous me suivez ? Alors, au total, j'aurais lu ma Bible en un an, hein, pas de problème. Mais des moments, je vais avancer un petit peu, et puis d'autres moments, je vais foncer. Vous savez, c'est comme avec quand vous prenez votre voiture, vous faites de la nationale, vous êtes à 90, vous passez dans les villes, vous êtes à 50, Vous passez un naturel à 90, vous arrivez sur l'autoroute, ou 4 voies, vous êtes à 110, et après vous êtes à 130 sur l'autoroute. Acceptons de lire à vitesse variable. Je ne suis pas contre le fait d'utiliser, vous savez, ces petits... ces petits cadres où vous cochez, ouais, je l'ai dans mon autre Bible, vous cochez un chapitre à chaque fois que vous l'avez lu par jour. Et puis normalement, on vous dit, bah, si vous voulez lire votre Bible en un an, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous lisiez un chapitre dans le Nouveau Testament et 3 chapitres dans l'Ancien. Le lendemain, un chapitre dans le Nouveau et 4 chapitres dans l'Ancien. Ok, très bien, on peut utiliser ça. Alors, 1, 3, 1, 4, vous pouvez faire ça, mais des moments... soit vous n'avez pas le temps, ou soit vous avez envie de lire plus. Alors, pourquoi se restreindre à quelque chose de figé? Donc c'est la raison pour laquelle, pour éviter la routine, personnellement, je préfère lire à vitesse variable. Vous me suivez? Autre chose pour éviter la routine, accepter de s'arrêter quand nous sommes interpellés. Cela conduit naturellement à l'observation du texte et à la méditation. Pourquoi c'est important de s'arrêter quand nous sommes interpellés? Pourquoi, les amis?
Réfléchir, ouais. Chercher le sens.
Je suis d'accord, mais la question c'est pourquoi est-ce que je suis interpellé? Merci, Eric. C'est peut-être le Saint-Esprit qui m'arrête là-dessus. Une expression, un mot, tiens, mais ne passons pas trop vite. Ne passons pas trop vite, les amis. Acceptons de plonger un peu plus. Tiens, ce mot, ça... Ça me fait drôle. Iniquité, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est quoi ça? Etc. Est-ce qu'il y a ailleurs? Et ça ouvre toute une porte, peut-être un peu sur la méditation, mais aussi sur l'étude, sur des références croisées. Voilà, acceptons d'être interpellés. Et puis, on en a parlé, lire dans une autre traduction. Ça peut aussi éviter la routine. Je suis tout à fait d'accord, ça pose aucun problème. Et puis, on y reviendra, transformer ce que nous lisons en prière. Et ça, c'est très, très important. On va y reparler après. Je regarde ce que j'ai là. Voilà. Remarques, questions, partage d'expérience sur ce que je viens de vous dire, les amis. Avant d'aller plus loin.
Moi, je trouve que pour les débutants, c'est mieux la lire, la lire au moins pour connaître ce qu'il y a dans la vie. Parce qu'on peut lire... comme vous dites, en s'arrêtant au passage, la petite ligne, mais si on ne la connaît pas, comme tu dis, pour la référence, au moins la lire tout entière, une fois ou deux, pour voir au moins qu'est-ce que c'est écrit, ça.
Absolument.
Pour commencer par où, justement.
Oui.
Ça, c'est très difficile de conseiller, comme nous ont conseillé, pour lire la Bible, mais comment?
Oui. D'accord. Je ne l'aborde pas, mais on peut répondre à ça. Je suis tout à fait d'accord avec votre remarque.
C'est très dur, comme tu dis, quelqu'un, même à moi, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par l'Ancien Testament, d'accord. Jusqu'à un certain temps, ça va, mais quand on parle des guerres, on a un peu plus haut, on a un petit peu plus haut, je dis, mais c'est pas, je suis fou, et j'y allais au Nouveau Testament. Et ça fait que, voilà, après pour l'autre, je dis, quand même, il faut que tu la lises. Enfin, tout le monde a lu la Bible à l'école, parce que bon, j'étais très jeune quand même. Mais quand tu conseilles quelqu'un maintenant, en me regardant en arrière, lis la Bible, il faut bien lui dire, commence par ça.
Oui.
Enfin, parce que, voilà.
Votre remarque, ta remarque. Excuse-moi, on va se tutoyer. Elle est très juste et je suis tout à fait d'accord. Il faut commencer par connaître ça, la lire au moins une seule fois. Mais maintenant, pour quelqu'un qui vient de débuter, qui vient de découvrir la Bible, je ne recommanderais pas tout de suite de démarrer dans l'Ancien Testament, mais de démarrer dans un évangile. Hein, l'évangile de Luc, on est d'accord. Hein. Et puis peut-être les psaumes.
Les psaumes,
c'est
bien,
c'est les
Bibles et tout ça, mais quand on se rend compte, quand on connaît Christ,
oui, on est tout à fait d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Colin, tu voulais dire quelque chose? Non. Ok.
Il y a cet aspect entre le logo et le réma. Quand on lit la parole, on découvre, on la lit, quelque chose qui nous fait du bien, Et après, quand on le vit, quand on le voit se concrétiser dans la vie, ça prend une autre dimension. On se rend compte que là, on ne se rend pas vraiment compte des faits, mais le vent, une écriture vivante, une écriture concrète.
Oui.
Et c'est tout ça aussi qui va nous donner le petit plus, le petit plus pour transformer ce que nous disons en prière.
Tout à fait.
Parce que nous sommes convaincus que nous pouvons pas.
Tout à fait. Le but, c'est de s'approprier la parole et de l'expérimenter, de la vivre. Par quel moyen ? D'abord en demandant à Dieu de nous transformer par sa parole vivante. Et c'est la raison pour laquelle, quand on lit, il faut prier avec. Mais on va y revenir.
J'ai une question.
Oui ?
Est-ce que j'écris ?
Écrire quoi ?
D'écrire ?
Alors, tu veux dire, écrire quoi ?
Écrire
les versets ?
Écrire
ce qui... les pensées qui nous viennent ?
Oui,
oui, mais bien sûr. Alors, je vais y venir après, parce que ça fait partie de ce que je vais développer après. Brigitte, tu me précèdes, mais c'est très juste. J'espère qu'on va y arriver, parce qu'il ne me reste plus que 5 minutes. Mais, je voudrais parler un petit peu de l'étude. Commence par bien observer le texte, peut-être que je vais aller assez vite là-dessus, et cela demande du temps. Ouais, ça, je vais aller assez vite. Délimiter le passage, péricope, sentir l'atmosphère du passage, j'en ai parlé, on va aller vite. Quelques questions à se poser, oui. Ça c'est important au niveau de l'étude, mais je voudrais peut-être balayer assez vite. Quand on lit un texte, j'ai dit tout à l'heure de se poser des questions et de poser des questions au texte. Le pourquoi. On doit l'avoir en mémoire. Pourquoi ? Parce que ça nous aide à voir si on a compris le texte et si on comprend vers quoi s'achemine le texte. Quel est le but de l'auteur ? Quelle est ce qu'on appelle la pointe du texte ? C'est-à-dire que le texte, il s'exprime d'une certaine manière, mais l'auteur, il a une intention, inspirée par le Saint-Esprit, mais de nous communiquer quelque chose. Et là, il faut essayer de comprendre cela. Au travers, bien sûr, des questions qu'on peut poser. Remarquons les mots, les expressions, les idées qui se répètent. Ça nous aide à mieux comprendre vers quoi le texte s'achemine. Et puis, ne faisons pas l'impasse sur les petits mots, relations de cause à effet, hein, ou les contrastes, les comparaisons, etc. Tout ça fait partie de l'observation du texte. Ça débouche sur l'étude, mais ça fait partie de l'observation du texte. D'accord ? Je ne voudrais pas trop passer de temps là-dessus. Alors, oui. Quand une bonne observation a été faite, il est toujours possible d'aller plus loin par l'utilisation d'autres outils que la Bible, Bible d'études, lexique, dictionnaire commercial. Mais attention aux interférences, et j'en ai parlé tout à l'heure. Attention que ça ne prenne pas le pas sur notre lecture, notre méditation du texte seul. La lecture et l'étude avec le texte biblique seul restent indispensables parce que le texte lui-même est inspiré par Dieu. D'accord ? Vous savez ça ? Ok, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui.
Par rapport à ça, après, quand même, il y a la difficulté de. Comment dire ? Des fois, quand on interprète mal des choses, on peut peut-être aussi créer. Je ne sais pas comment expliquer, mais. Des fois, il y a des gens qui vont dire : j'ai lu ça, j'en comprends ça, et c'est complètement à côté de la plaque. Alors, c'est vrai que l'idée, c'était important de mettre la parole à la lumière, mais...
D'accord. Il est possible de mal interpréter un texte. Mais quand on lit un texte et qu'on pense que le texte veut dire ça, il faut toujours se poser la question, est-ce que ce que je pense, c'est confirmé ailleurs, ou est-ce qu'il n'y a que là que c'est dit ? D'accord ? Je pense que c'est important. Si l'écriture a vraiment un point fondamental à mettre en point d'orgue, elle va le dire ici, et là, et là, et là. Elle va le confirmer ailleurs. Et je pense que, au fur et à mesure qu'on commence à connaître l'écriture de manière large et élargie, de l'Ancien, de la Genèse à l'Apocalypse, globalement, on ne fait pas des erreurs magistrales. On peut se tromper sur des petites choses où les théologiens ne sont pas d'accord. On ne va pas tomber dans les querelles de théologiens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas faire des erreurs magistrales. Je ne pense pas. D'autant plus quand on prie aussi avec l'Écriture. On a le Saint-Esprit en nous qui nous aide quand même à comprendre. Et puis, n'oublions pas que nous avons la communion fraternelle. N'oublions pas qu'on peut en parler avec des frères et sœurs. J'ai compris ça, qu'est-ce que t'en penses ? Et après, en l'étudiant, en allant plus loin, on peut aller voir ce que disent les commentateurs. Parce qu'on n'est pas les seuls à avoir étudié les Écritures. Et il y a des générations qui nous ont précédés, qui ont passé leur vie à étudier. Et soit ça confirme, ou soit c'est complètement à côté de la plaque. Donc, on a des moyens, quand même.
Puis tu dis toujours, l'Écriture s'explique par l'Écriture.
Oui.
Et donc, quand il y a des passages un peu difficiles, tu me dis toujours qu'il faut chercher les passages qui sont plus faciles et qui traitent les
voilà. sujets. Alors ça, c'est une méthode d'interprétation en herméneutique qui est la première règle. On interprète le texte, bien sûr, avec le contexte qu'on a. Et quand on a plusieurs passages qui traitent d'un même sujet, on n'interprète pas la doctrine avec le passage le plus difficile, mais on prend le passage le plus facile. Et les passages les plus difficiles sont interprétés à la lumière des passages les plus faciles. C'est une règle d'interprétation, donc une règle d'herméneutique, ça. Oui. Voilà, mais ça, ça ouvre un pan de sujet assez large.
Il y a aussi des antinomies dans la parole, le blanc, et ce qui paraît être le contraire de ce que dit telle parole.
Oui.
Et ça...
Il y a des contradictions apparentes.
Voilà, apparentes.
Apparentes. Répond à l'insensé selon sa folie de peur qui de peur qu'il ne se regarde comme ça. Je ne réponds pas à l'insensé de peur que tu ne lui ressembles. D'accord ? Donc alors je réponds à l'insensé ou je réponds pas à l'insensé ? Ben, si on regarde le contexte, si c'est pour devenir comme lui, il vaut mieux que je me taise. Mais si je suis capable de lui dire quelque chose avec l'amour de Dieu, alors je vais lui dire. Donc ce sont des contradictions apparentes. Je ne crois pas personnellement qu'il y a de réelles contradictions dans l'Écriture. Parce que la Bible est inspirée. Par contre, il y a, oui, des contradictions apparentes, mais ça nécessite recherche, étude, méditation, comparaison, etc. Oui.
Et c'est parfois l'analyse du contexte qui permet de lever la...
Absolument, oui. Absolument.
C'est là où on peut revenir sur le contexte historique, par exemple,
oui.
Le terme, dont tu l'as utilisé tout à l'heure pour le terme de femme, effectivement, on pourrait imaginer qu'il y a une contradiction avec un autre terme ailleurs. Selon l'époque où ça a été écrit, ça n'a pas la même signification.
Absolument. Absolument. Un texte, on le dit souvent, vous l'avez entendu, je pense que ça vaut la peine de le répéter, un texte tiré de son contexte devient un prétexte pour lui faire dire ce qu'on a envie de lui dire. D'accord ?
Mais, la difficulté, c'est d'extraire des passages des fois un peu trop courts.
Oui.
Et de fonder dessus des
oui.
doctrines, on va dire.
Voilà.
C'est ça. Qui peuvent devenir des erreurs.
C'est ça. Alors c'est ce que j'ai dit au début, là, à un moment, j'ai dit bien cerner le texte qu'on est en train d'étudier. Les théologiens appellent ça la péricope, c'est-à-dire une unité textuelle qui en elle-même peut s'expliquer. Et c'est important de bien la délimiter, de savoir jusqu'où elle va, et de la prendre suffisamment haut, de manière à l'interpréter correctement. Mais quand on l'interprète, ça n'évince pas le fait qu'il faut replacer cette péricope dans le livre lui-même, dans les chapitres qui l'entourent, dans tout le livre, aussi lui-même, et puis au sein de la parole de Dieu, qui ne peut pas se contredire.
Alors, Jésus, quand il s'exprimait par sa parole, il se mettait à l'époque de compter la vigne, ou quelque chose. C'est venu aujourd'hui, ça nous fait un ordinateur. Pour dire, à cette époque-là, il y avait au sommeil, alors je le comprenais, qu'est-ce qu'il disait, il comparait ce qu'il voulait nous dire.
Avec des images de la vie courante. Oui, tout à fait. Et c'est nécessaire de se replacer dans le contexte de la vie courante. C'est la raison pour laquelle il y a aussi, bien sûr, on pourrait développer ce sujet-là. Avant de comprendre ce que l'Écriture me dit, il est indispensable de comprendre ce que l'Écriture disait aux premiers auditeurs, à ceux à qui elle était adressée. Et à partir de là, je peux en faire une déduction saine de ce que ça veut dire pour moi, mais pas avant. Mais pas avant. Donc ça nécessite quand même de se replonger dans le contexte historique, si possible, et géographique, essayer de comprendre un petit peu, au travers ne serait-ce que des mots, des expressions qui sont employées dans la Bible. C'est un travail à faire.
Justement, c'est-à-dire, le contexte qui parlait à l'époque, il ne parlait pas seulement à ces personnes-là, il parle à nous aussi aujourd'hui.
Oui. Oui.
À mais... moi qui lis la parole, c'est à moi qui parle.
Oui, mais avant de parler à toi, avant de parler à toi, ça a parlé à ceux qui ont reçu le texte. Et là, il faut comprendre ça. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Et ensuite, une fois que ce travail a été fait, comment est-ce que ce texte, je peux le comprendre maintenant pour moi? Parce que sinon, si on ne fait pas ce travail-là, on peut faire une application injustifiée. Injustifiée de choses que la parole de Dieu ne voudrait pas.
Par exemple, quand le maître est descendu à la place, il a embauché des personnes, et puis plus tard, il est parti une autre fois, il a embauché d'autres, et puis plus tard d'autres.
Oui.
Et puis à la fin, il a donné à tous la même paye.
Oui.
Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce passage.
Oui.
Si l'autre a travaillé plus, pourquoi il va.
Oui. Oui. Je ne veux pas en parler maintenant, parce que là on est parlé pour une heure, mais il y a une explication à ça. Et une explication divine.
Moi je l'ai compris personnellement.
Ok. Bon, si vous n'avez pas compris ce passage, allez, vous adressez au père. Mais oui.
Aussi par rapport au peuple d'Israël aussi, chaque fois c'est pour l'histoire d'Israël, c'est aussi pour nous.
Oui, mais attention, l'histoire d'Israël. Bien sûr, l'Ancien Testament s'adresse au peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que nous recherchons au travers de l'histoire d'Israël? Nous recherchons les principes spirituels qui, eux, sont intemporels et qui s'appliquent aussi à nous. Et ces principes spirituels sont en relation avec la manière dont Dieu agit. Dieu est Dieu. Et la manière dont Dieu agit dans l'Ancien Testament, on a quelque chose à apprendre de lui, de son caractère, de sa nature, que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. D'accord ? La manière dont les hommes se comportent dans l'Ancien Testament, on peut comprendre ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu, etc., etc.
Je trouve que dans le peuple d'Israël, ça nous parle sur nous.
Absolument. Mais c'est clair. Mais c'est clair. C'est clair. Très rapidement, on se dit, mais attends, le peuple au courroide, c'est moi. De manière, donc on est lié quelque part avec le peuple d'Israël à ce niveau-là, parce que nous sommes pécheurs. Oui.
Par rapport à la rancune, je crois qu'il y a quelque chose qui m'a chagrine de voir. Au part de la complexité du texte, il arrive des gens qui ne savent pas lire l'écrit, mais qui s'inspirent et arrivent à relater des choses dans les écritures écrites alors qu'ils ne savent pas lire l'écrit. Comment pouvez-vous interpréter cela?
Dieu est Dieu. Dieu est capable de faire des choses, je pense, qui nous étonnent parfois. Il peut s'agir d'un miracle, je ne connais pas trop le contexte. Là, ce qu'on est en train de parler, je dirais que c'est pour nous qui sommes en France, en Occident, qui avons la Bible, comment devons-nous la traiter? Et comment devons-nous l'aborder? C'est à ça que je réponds en ce moment. Maintenant, ce que Dieu peut faire dans un autre contexte, où les gens ne savent pas lire, ne savent pas écrire, Dieu est capable de faire... Ouais, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser, demander ou imaginer. Je le crois. Donc, je n'ai pas de veto à mettre là-dessus. Ça serait ma réponse. Ok. Il est 9h35. Donc, on avait dit jusqu'à 9h30. Je t'ai dépassé de 5 minutes. On met en croix, Colin. Le reste, c'est... Bon. 5 minutes 5 minutes. Ok, alors. Colin. 10 minutes. Hein. Ok. Alors, moins de 4.
Je vais aller voir les enfants, ça se passe bien.
Moins de
4. Et tous les enfants aussi.
Ok, on essaye d'aborder prier avec l'écriture. Je crois que c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important de prier avec l'écriture? Parce que notre prière centre, se fonde et s'enracine dans ce que Dieu a dit et a promis. Et ça, c'est très important. La prière doit naître de qui est Dieu et de ce que nous comprenons de Dieu. Elle ne doit pas naître de nos sentiments, de nos émotions, de ce qui se passe dans notre tête, de choses confuses, etc. La Bible est une source inépuisable de prière. C'est un livre de prière, c'est un recueil de prière. N'est-ce pas? Les psaumes, bien sûr, sont par définition le livre est un livre de prière. Mais vous avez tellement d'autres prières dans les Écritures, et vous avez tellement de textes auxquels vous pouvez prier aussi, avec lesquels vous pouvez prier. Donc ça, c'est important. Je voudrais mentionner aussi comment prier avec l'Écriture. Personnellement, ce que je trouve très utile, c'est d'instaurer un dialogue avec le Seigneur au fil de notre lecture. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La majorité des textes, je ne dis pas tous, si vous retrouvez dans le cérémonial lévitique ou dans les chroniques avec les généalogies, vous pourrez difficilement faire ça. Mais dans la majorité des textes, il y a toujours quelque chose à en tirer en relation avec la condition humaine, avec la manière dont Dieu agit, avec ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et nous pouvons facilement transformer ça en prière à Dieu. Vous me suivez dans ce que je suis en train de dire ? Et ça, c'est important. Pardon ? Alors, dans la majorité des textes, il est possible d'instaurer un dialogue avec le Seigneur en priant à partir du texte. D'accord ? Je crois que c'est important d'entrer en relation avec le Seigneur au travers du texte, en lui adressant ce que l'on perçoit et ce que l'on voit dans le Seigneur. Seigneur, aide-moi à agir de cette manière. Seigneur, garde-moi de faire ça. Seigneur, merci de la manière dont tu te révèles. Merci de ce que tu es bon là, etc., etc. Vous voyez ? Il est possible aussi de cibler notre prière sur des domaines particuliers où je suis encouragé à demander à Dieu d'intervenir, le cœur, l'esprit, la langue, par exemple. Voilà. Alors, j'ai fait par exemple, je me suis pas amusé, mais j'avais à cœur, entre guillemets, d'étudier un petit peu, de dire, mais en fait, où en est mon cœur ? Et je suis parti du simple verset de Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Waouh ! Ça, c'est puissant, ça. Ça mérite méditation. Ça, faut aller plus loin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été, et là, j'ai utilisé une concordance, j'ai regardé partout, de manière exhaustive, où le mot cœur se retrouvait dans les Écritures. Alors, j'ai trouvé tous les états possibles du cœur. Endurci, enflé, etc., etc., etc. Mais j'ai vu dans les Écritures qu'il était possible d'avoir un cœur sincère, purifié d'une mauvaise conscience, bien disposé, honnête et bon, droit, vrai, pur, confiant, résolu, fidèle, etc., etc., etc. Et puis, j'ai fait un tri en me disant, mais finalement, qu'est-ce que Dieu attend de mon cœur ? Et je me suis aperçu que je pouvais classer ces versets-là en prenant des versets spécifiques qui me montre ce que Dieu attend de mon cœur. Un cœur qui s'applique à te chercher. De Chroniques 19, 3. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, en relation avec Josaphat, tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Ça, Seigneur, c'est ce que tu voudrais que je fasse. Voilà ce que tu attends de mon cœur. Ou encore, quand Dieu va s'adresser, Daniel va s'adresser à Belshazzar et va lui dire et toi, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoi que tu saches toutes ces choses. Tu n'as pas humilié ton cœur. Tu aurais dû humilier ton cœur alors que tu savais tout ça. Dieu, tu voudrais aussi que j'humilie mon cœur quand je comprends certaines choses. Ou un cœur qui se tourne vers l'Éternel, un cœur qui se donne à toi, un cœur qui reçoit tes paroles, un cœur qui retient tes paroles, etc., etc. Et puis, je suis encore allé un peu plus loin parce que j'avais quand même une somme de matériaux importante. Et j'en ai déduit ce que, écoutez bien, Dieu pouvait faire pour mon cœur. D'accord ? Pas simplement ce que Dieu attend de mon cœur, mais ce que Dieu pouvait faire à mon cœur, sur mon cœur. Par exemple, incline mon cœur vers toi pour que je marche dans toutes tes voies et que je t'obéisse. Vous avez ça dans 1 Roi chapitre 8, verset 58, c'est la prière de Salomon. N'est-ce pas ? On voit aussi que David fléchit le cœur de ceux de Juda, comme s'ils avaient été un seul homme. Mais si David a fait ça pour les hommes de Juda, Dieu peut faire ça pour moi. Et si Dieu peut faire ça pour moi, pourquoi est-ce que je n'en ferais pas un sujet de prière ? Pourquoi est-ce que je ne demanderais pas à Dieu de fléchir mon cœur envers lui ? Il peut le faire, il veut le faire. D'accord ? Par exemple, on voit que Esdras va dire, Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem. Seigneur, dispose mon cœur à glorifier ta maison. Mais sois, fais-le, toi, dispose mon cœur. Vous voyez, ça devient des sujets de prière, ce que je lis en relation avec le cœur. Et puis dans Deutéronome 30, cette promesse que Dieu fait à Israël, l'Éternel circoncira ton cœur, etc. Eh bien, circoncis mon cœur, Éternel. Dieu circoncis mon cœur pour que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, toute ma pensée et mon prochain comme moi-même. Fais-le pour moi. Vous me suivez ? Donc, tout ce petit travail d'études, et j'en ai des feuilles, je ne vous lis pas tout, vous pouvez les compiler, vous pouvez le faire vous-même, et ça devient un merveilleux recueil de prières. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout le temps, mais de temps en temps, j'y reviens. Et je prie avec ça. Vous pouvez le faire avec le cœur, vous pouvez le faire avec l'esprit, je l'ai fait aussi avec l'esprit, vous pouvez le faire avec la langue, vous avez je ne sais pas combien de versets en relation avec la langue, et c'est merveilleux de voir tout ce que la langue peut faire, de bien comme de mal, les états de la langue, mais aussi tout ce que Dieu peut faire pour nous, pour notre langue. Et là, ça devient des sujets de prière. Vous me suivez ? Ah, bon. J'aurais tellement de choses à dire. Faut que je m'arrête, parce que sinon j'ai... Ouais, alors, vous avez aussi certaines expressions, par exemple, qui sont merveilleuses dans les Écritures et qui peuvent devenir... Vous pouvez prier avec l'Écriture au travers de thèmes très précis. Par exemple, j'ai regardé là où les expressions « chaque jour, chaque matin, tous les jours » étaient employées. Je vous cite ici que 6 versets. J'en ai 25. Mais c'est juste pour vous donner une idée, ça devient... des manières de prier et de s'adresser. Vous avez au travers de ça des prières d'hommes de Dieu que vous pouvez utiliser pour vous et offrir à Dieu en y pensant et en disant « Seigneur, ça vient de mon cœur, je suis d'accord avec ça et je t'offre cette prière ». Vous n'avez pas besoin d'inventer la prière, elle est toute faite. Vous me suivez ? La prière, l'écriture elle-même devient votre recueil de prières. Vous me suivez ? Et ça, c'est précieux. Ça, c'est précieux parce que vous prenez Dieu à témoin et ce sont les promesses de Dieu. C'est ce que Dieu a dit que vous apportez à Dieu. Alors, vous pouvez le faire avec ça. Vous pouvez le faire aussi avec les bontés de l'Éternel. Ça, c'est un merveilleux sujet. Les bontés de l'Éternel sont inépuisables, providentielles, n'est-ce pas ? Vous connaissez ce verset ? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, n'est-ce pas ? Et vous connaissez la suite ? Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, etc. D'accord ? Son profit. Je vais revenir en arrière. Elles sont providentielles. Hein ? Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. C'est Ézéchias qui dit ça. Mais ça, c'est merveilleux. Quand vous lisez ça, il faut le noter. Et ça devient un sujet de prière que vous pouvez offrir à Dieu tous les jours. Tous les jours, vous réveillez. Vous avez la santé, la vie, le mouvement et l'être. Et vous ne voulez pas rendre gloire à Dieu ? Si, on peut. Voilà, à partir de ce verset-là. C'est par tes bontés que je jouis de la vie, Seigneur. Et c'est par elles que je respire encore aujourd'hui. Merci, Seigneur. Vous me suivez ? Très important.
Ah, okay. Il faut avoir toujours le cœur bien disposé. Même quand on commence à lire la Bible, déjà avant de commencer à lire la Bible, se dire, Seigneur, ouvre mon cœur que je puisse comprendre.
Amen.
Parce que
tous les jours, tous les jours. Et je crois que ce qui ouvre nos cœurs aussi, c'est le fait de rester en contact avec l'Écriture, ça ouvre aussi nos cœurs. L'Écriture est puissante pour ouvrir nos cœurs. Voilà, les bontés d'Éternel, autre thème possible, etc. Quand je suis dans la crainte, qui est notre Dieu, etc. Vous pouvez faire des listes de prières, j'ai fait des listes avec ça, qui deviennent des listes avec des choses avec lesquelles je peux m'adresser à Dieu à partir de la parole de Dieu. D'accord ? Alors, l'Éternel est bon, on va passer avec un attribut de Dieu. Vous pouvez le faire. Je vous ai cité quelques versets, mais il y en a plein des versets qui concernent les attributs de Dieu. Et ça devient un moyen avec lequel vous pouvez vous adresser à Dieu. D'accord ? Remarque, suggestion. Ok, vous n'en avez pas, je finis. Alors, je termine avec ça, les versets mémorisés. Je vous encourage, les amis, à mémoriser la parole de Dieu. Vous avez, est-ce que tout le monde connaît la méthode des navigateurs avec les petites cartes ? Voilà, utilisez-la. Utilisez-la. Et quand vous avez terminé, vous pouvez créer vos propres listes. D'accord ? Et puis, les réviser, surtout, et j'insiste, en priant à partir de ces versets. Moi, ça fait des années que je le fais, et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça devenait un petit peu machinal, que ça perdait sa saveur, etc. Et me suis récité les versets en priant avec. Et je me suis rendu compte que ça réactualisait l'authenticité de ces versets pour mon cœur et pour mon âme. Et puis, si vous êtes plus auditif que visuel, alors enregistrez-vous. Mes versets, je les ai enregistrés sur mon smartphone. Puis la nuit, quand je ne dors pas bien, tac, je m'écoute mes versets. Ça passe et ça me les fait réviser. Pourquoi pas, je veux dire, pourquoi pas. Non, parce que je mets les écouteurs, Colin. Je ne réveille pas lui. Ok. Je vous donne encore un autre tuyau. Utilisez des recueils de prières d'hommes et de femmes de Dieu. Malheureusement, c'est en anglais. Mais pour ceux qui lisent l'anglais, je vous recommande cet ouvrage, The Valley of Vision. Il est excellent. Et puis surtout, The Private Devotions of Laszlo Andrews. C'est un homme qui a passé sa vie presque à prier. Son rythme, c'était 5 heures de prière par jour. Et son ouvrage, il est monumental. C'est son recueil de prières qu'il avait toujours avec lui. Toutes ses prières, il les prenait à partir de versets de la Bible. C'est-à-dire, tout ce qu'il disait au Seigneur, il mettait un verset. Et vous avez un recueil magnifique et assez incroyable. Et certaines de ses prières sont tellement magnifiques, vous pouvez les offrir vous-même à Dieu. C'est un des moyens. Un des moyens. D'accord ? Ce n'est pas le seul. Voilà. Je termine avec lire, étudier, prier avec l'Écriture pour demeurer dans sa parole. J'aime beaucoup ce verset. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » J'aime beaucoup ça. Demeurez dans sa parole. Demeurons dans la parole de Dieu, mes amis. Excusez-moi, j'ai vraiment dépassé le timing. Je suis confus, honteux, mais vous me pardonnez. Merci.